Le 7-9 de Matin Première.
Il est 7h48, bonjour Thomas Galisseux.
Bonjour à toutes et tous.
C'est la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste ce jeudi 27 avril. Avec notre invité, 27 janvier pardon, avec notre invité ce matin Thomas, on pose cette question, qui manipule comment l'histoire actuellement?
Et on en parle avec l'historienne Chantal Castelot, responsable de l'histoire publique au CGSOMAS et les archives de l'État. On va ouvrir ce matin quelques pages d'histoire, François, pour voir comment tout cela résonne, surtout avec l'actualité en 2022.
Bonjour Chantal Castelot.
Bonjour.
Ce week-end, dans une manifestation contre les mesures sanitaires, certains ont associé le Covid Safety Kit à l'étoile jaune. Le mot dictature est souvent brandi dans certains débats. Comment vous expliquez, vous, en tant qu'historienne, le retour en 2021 ou en 2022 de ces symboles de la Seconde Guerre mondiale?
Je crois qu'on a un peu érigé ces dernières années la Seconde Guerre mondiale en une espèce de rempart moral. Donc c'est vraiment l'image du bien et du mal, le contre-modèle, tout ce qui a négativement pu nourrir notre imaginaire collectif. Et donc ça explique aussi l'utilisation perverse de toute une série de symboles, où on est là dans un amalgame complètement gratuit. Si on compare effectivement les contextes, on est dans des situations complètement différentes. Mais on se dit, enfin, je me mets là un instant dans la peau d'un manifestant, on se dit, mais si on agite ça, ça va percoler, ça va être parlant, ça va être efficace, parce que dans notre imaginaire d'aujourd'hui, Auschwitz, la persécution des Juifs, c'est le mal absolu. Et donc, si on arrive à s'accrocher à ce wagon-là, pour utiliser encore une autre image un peu forte, on est gagnant. Ça va parler à la société.
Vous parlerez d'une instrumentalisation de ces pages de l'histoire, là, en 2022?
Ah là, on est clairement dans une instrumentalisation complètement perverse. Donc, on est véritablement dans une utilisation malsaine de symboles dans des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Je veux dire, on ne peut absolument pas comparer, je dirais, le pass sanitaire à ce qu'impliquait l'enregistrement des Juifs, le fait d'avoir des cartes d'identité estampillées juifs, le fait de devoir porter l'étoile jaune, l'antichambre de la déportation et le contexte sanitaire actuel. On est véritablement là dans quelque chose de tout à fait pervers.
Comment expliquer cela alors, Chantal Castelot? Alors qu'on enseigne ces pages de l'histoire, ce débat a lieu depuis 25 ans, on a réformé notre enseignement pour expliquer aussi toutes ces pages sombres-là. Comment alors on en arrive à banaliser, instrumentaliser ces symboles-là?
Mais je crois qu'on a besoin d'un recours à quelque chose qui est fort, et la Seconde Guerre mondiale, alors d'un côté...
C'est une faille aussi de notre société?
Alors, c'est une faille, c'est au fond, c'est un petit peu le point Goldwyn, quoi. Si on arrive à se référer à la Seconde Guerre mondiale, là, on est quelque part dans une logique qui va parler. On se rend compte, effectivement, on a encore vu la semaine dernière avec les révélations sur qui a trahi Anne Frank, quand on arrive à parler de la Seconde Guerre mondiale sous forme de scoop, sous forme d'image forte, on réussit, au fond, à parler, on a réussi à avoir un discours social. Par contre, quand on analyse des logiques, quand on est dans quelque chose de l'ordre de l'analyse, de l'ordre quels sont les mécanismes, quels sont les groupes qui ont été à la manœuvre, on est là dans quelque chose qui est, je dirais en termes médiatiques, sans doute moins parlant. On sait aujourd'hui, le communiqué de presse vient de sortir, la SNCB va permettre au CGS de financer une recherche sur le rôle de la SNCB pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, cette recherche fondamentale-là, elle doit encore être menée. Mais c'est une recherche qui va se faire sur le temps long. Et donc là, effectivement, ça fera sans doute moins la une de l'actualité.
Mais cette utilisation-là de ces symboles, qu'est-ce qu'elle dit alors de notre travail de mémoire, de notre enseignement de ces pages-là? Quel constat vous tirez alors en tant qu'historienne?
Alors moi, je me pose effectivement énormément de questions. Depuis 25 ans, on a quand même énormément investi dans le devoir de mémoire. Il y a une série d'institutions qui ont été créées, on a créé des outils, on a beaucoup réfléchi à la manière dont on enseignait l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, dont on parlait de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et on se rend compte aujourd'hui, le constat, eh bien, au fond, finalement, avoir parlé de la souffrance, avoir parlé de la persécution, ça n'a peut-être pas été l'antidote. Au fond, finalement, je dirais, on ne peut pas se servir du passé comme une espèce de vaccin contre l'antidémocratie. Il faut sans doute se réfléchir comment parler autrement de ce passé, comment parler des structures, des mécanismes. Quand faut-il en parler? À partir de quel âge? Toutes ces questions-là sont ouvertes. Je ne suis pas persuadée qu'emmener des classes à partir de 15-16 ans visiter Auschwitz, que ce soit la bonne méthode. Au fond, il vaut mieux un bon cours sur les mécanismes de la persécution qu'une mauvaise visite.
On a mal enseigné cette période-là dans les écoles ces 10, 20, 30 dernières années?
Alors, je veux pas jeter, je suis pas du tout là pour jeter la pierre, mais je suis là pour interpeller. Au fond, je me dis, est-ce que la manière dont on a aujourd'hui écrit, parlé de cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que ça a porté les fruits qu'on espérait? Hein, parce qu'on était dans l'idée, au fond, on va faire de cette Seconde Guerre mondiale une espèce de socle moral qui va faire de tout un chacun un citoyen convaincu, un démocrate averti. Et on se rend compte aujourd'hui, quand on voit les dérives, quand on voit les utilisations, on se dit, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, il faut s'interroger, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce qu'on s'empare des symboles de la Seconde Guerre mondiale dans des contextes qui nous mettent mal à l'aise, au fond? Pourquoi n'a-t-on pas cette réflexion, ce regard critique et se contente-t-on, je dirais, de symboles faciles?
Un des exemples de cette instrumentalisation de l'histoire, de cette montée des extrémismes et de l'extrême droite, c'est Éric Zemmour, candidat à la présidentielle en France. On en a beaucoup parlé cet automne, de cette zemmourisation de certains débats. Est-ce que la Belgique est aussi envahie, entre guillemets, par cette zemmourisation des esprits, selon vous? Est-ce que ça gagne la Belgique?
Alors, sans doute pas dans la même proportion. On n'est pas, je dirais, dans le contexte belge, dans l'idée de l'homme providentiel un peu, hein, qu'incarne Zemmour, avec les modèles aussi qu'il se construit, avec une espèce de fausse érudition, s'inscrire à la fois dans l'héritage du régime de Vichy, mais aussi de l'héritage du général de Gaulle. Il n'empêche qu'on n'est pas à l'abri. Et j'étais particulièrement interpellée de voir quelqu'un comme Alain de Staeck, qui a beaucoup contribué pour que le débat se fasse justement sur la persécution des Juifs de Belgique, qui a été un des sénateurs qui avait participé au dépôt de la proposition de loi qui
avec votre institut, le CGSOMA.
Avec le CGSOMA, la recherche de la Belgique docile, de voir qu'Alain de Staeck a rejoint l'équipe de campagne d'un Éric Zemmour. Donc, je dirais, là, il y a quelque chose qui interpelle, quelqu'un qui a particulièrement, qui s'est investi, qui a travaillé et qui aujourd'hui se retrouve du côté de Zemmour. Alors, on a effectivement ce phénomène parfois de fausses éruditions. Hein. Au fond, quelqu'un comme Zemmour, il prétend qu'il fait mieux le job que les historiens, qu'il a trouvé le document, Et donc, je dirais, on n'est pas non plus à l'abri de ce genre de phénomène. On n'est pas non plus à l'abri, je dirais, de lectures très identitaires de l'histoire. Alors, évidemment,
chez nous, en Belgique, avec le nationalisme flamand, est-ce que on est aussi en train de devoir affronter cette vague d'instrumentalisation de l'histoire? Est-ce que il y aura un retour avec les nationalistes flamands de cette manipulation parfois de certains éléments de l'histoire, selon vous?
Alors il y a certainement un risque, hein, du côté flamand. Il y a eu tout ce débat sur les canons. Qu'est-ce qu'on doit enseigner en matière d'histoire? Donc il y a véritablement une volonté de se servir de l'histoire pour créer une dynamique, une logique d'identité nationale. Maintenant, il y a parfois deux discours. Moi, je suis frappée de constater, par exemple, qu'à Anvers, on a investi énormément pour préparer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'il va y avoir une exposition permanente aux masses sur Anvers pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a des recherches qui sont en train de se faire sur les victimes anversoises de la Seconde Guerre mondiale.
Et que le bourgmestre d'Anvers, c'est Bardo Ever, président de la NVA, qui est souvent étiqueté, justement, comme un des partis qui manipule cette histoire. Renverse le cliché, là.
Voilà, c'est ça. Alors, évidemment, il y a deux logiques. On peut à la fois se dire, mais au fond, quand Bardo Ever condamne la collaboration, ce qu'il a fait clairement en 2015, à la fois, on peut se dire, c'était un geste un peu hypocrite, hein, c'est une espèce de gage qu'il veut donner à la société dans
son ensemble.
Parce
qu'en même temps, un de ses ténors va à l'anniversaire de Bob Mas, à savoir la bonne ministre de l'Intérieur.
Voilà, et d'un autre côté, on peut se dire, c'est courageux parce que effectivement, dans une partie de son électorat, probablement qu'une partie de son électorat est toujours dans cette lecture très nationaliste de l'histoire, dans cette approche très victimaire, dans cette valorisation de la collaboration. Donc, les deux logiques s'affrontent. Évidemment, du côté francophone, on préfère sans doute voir cette logique nationaliste, quelque part, ça nous conforte aussi dans notre lutte contre le nationalisme flamand, mais les choses sont plus nuancées. À Anvers, par exemple, le quai Léo Delhaize, hein, on sait le bourgmestre d'Anvers qui a joué un rôle ambigu dans la déportation des Juifs d'Anvers, il a été débaptisé, c'est devenu le quai de la Libération. Donc, il y a une série de gestes politiques auxquels on n'a peut-être pas prêter beaucoup d'attention du côté
francophone. Ça nous arrange bien, côté francophone, de laisser certains néerlandophones dans cette case-là, ce que vous dites.
Mais disons que les stéréotypes arrangent toujours je dirais, l'autre. Hein. On a besoin, pour se conforter soi-même, d'avoir une image négative de l'autre pour se dire qu'on est dans une bonne logique, qu'on mène le bon combat.
Comment vous expliquez alors qu'un petit monument, récemment à Zedelgem, en hommage à des légionnaires lettons qui ont combattu dans les rangs de la SS, provoque du coup comme ça de nouveau des vifs débats avec des prises de position d'historiens pour déboulonner le monument? On a l'impression qu'un petit monument comme ça peut tout de suite raviver une mèche et relancer des grands débats en Belgique. Il ne faudrait pas grand-chose pour qu'il y ait une vraie polémique.
Alors, c'est un petit monument, mais c'est quand même une symbolique particulièrement chargée. Hein. C'est un monument
qui date. Pas récent.
Non, c'est pas récent. 2018, le monument a été installé. Bon, très rapidement, il y a quand même eu des prises de position. Là, encore une fois, il a fallu que la mobilisation se fasse. Il y a une commission d'historiens qui a été chargée d'examiner, hein, et qui a rendu un rapport récent et qui propose, je dirais, d'enlever le monument, hein, de déboulonner en quelque sorte, sans savoir exactement ce que l'on va en faire.
Mais là, de nouveau, il y a de la politique derrière. Il y a les élus locaux, il y a certains partis.
Alors, il y a probablement un jeu d'élus locaux. Il y a un jeu avec les élus locaux qui, clairement, je dirais, se sont fait instrumentaliser un petit peu à leur corps défendant par un historien amateur local qui avait des contacts et qui, lui, savait très très bien ce qu'il faisait, Paul Denis. Et donc, je dirais, ils ne sont pas pris conscience, je dirais, de la réalité, de la portée de la chose. Et la bourgmestre actuelle, elle est extrêmement mal à l'aise. Parce que derrière ce dossier, derrière le dossier de ce monument, il y a un camp de prisonniers britanniques qui est là, un lieu absolument très intéressant, qui pourrait devenir un lieu de mémoire, qui peut nous interpeller. Qui sont ? Il y a eu 65 000 prisonniers de guerre, 12 000 lettons, 10 nationalités. Qu'ont-ils fait ? Comment ont-ils été aussi utilisés dans le contexte de la guerre froide ? Ces lettons ne sont pas rentrés chez eux et à un moment donné, ils ont été aussi valorisés comme héros. Donc il y a toute une histoire à raconter. Donc c'est une belle occasion. Et malheureusement, je dirais, ce récit ne nous vient qu'à travers la polémique liée à ce monument qui est effectivement un petit monument, mais un symbole ô combien important.
Dernière question, Chantal Cassolot, qui a donc un peu plus de 75 ans, hein, que s'achevait la Seconde Guerre mondiale. Du fait de la crise sanitaire, il n'y a pas eu de grande commémoration, pas de grande manifestation d'envergure. Est-ce qu'il y a vraiment un risque de voir tout ce passé tomber dans l'oubli ? On sait qu'on a aussi les derniers survivants de ces pages de l'histoire-là qui sont en train de terminer leur vie.
Alors, je crois que les témoins, effectivement, sont en train de disparaître. Donc, la dimension émotionnelle, elle va disparaître. Mais d'un autre côté, leurs témoignages ont été enregistrés. Leurs témoignages sont accessibles. Donc, je dirais, on a là un matériau exceptionnel sur cette période. On a encore quantité de documents, d'archives qui doivent être examinés, qui doivent être analysés. Donc, effectivement, la Seconde Guerre mondiale, petit à petit, ben, je dirais, la distance chronologique va faire que d'autres enjeux, et je songe notamment à la décolonisation, vont devenir de plus en plus présents. Mais la Seconde Guerre mondiale reste quand même, en tous les cas, en Europe aujourd'hui, un des éléments importants de notre passé
et
de notre mémoire.
Le regard de l'historienne sur certains débats politiques du moment, Chantal Kestelot, responsable de l'histoire publique au CGSOMA, les archives de l'État, en cette date anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, le jeudi, le 27 janvier 1945.
Oui, c'est moi qui m'a écrit.
C'est vous qui avez écrit avril sur ma feuille.
Je me projette déjà.
C'était en janvier. Merci beaucoup, Thomas Guédisseux, et merci à vous, Chantal Kestelot.
Merci.
Vous écoutez La Première, il est 8h.